Chapitre 8e. La France entière connaît le nom et la bravoure héroïque du capitaine L'Endurci, commandant le corsaire Le Tison d'Enfer, brique de 16 canons, poursuivit Onésime en lisant à haute voix le journal de l'Empire. On sait les nombreux et brillants combats de ce corsaire contre la marine britannique et le nombre considérable de prises faites sur les Anglais par Le Tison d'Enfer pendant ses dernières croisières. Il y a peu de jours, le capitaine L'Endurci rentrait à Dieppe, remorquant un grand trois-mâts de la Compagnie des Indes, armé en guerre, portant 30 canons. Ce bâtiment, qui escortait plusieurs navires marchands chargés de blé, a été enlevé avec son convoi par l'intrépide corsaire, après un combat acharné qui a duré près de 3 heures, et ensuite, duquel la moitié de l'équipage français a été tué ou blessé. Un combat de 3 heures, dit la jeune fille en frémissant. Tant de braves gens, morts ou mourants. Quel abominable fléau que la guerre! Ah, ce n'est pas de l'admiration que m'inspirent ceux qu'on appelle les héros, c'est de l'épouvante, c'est de l'horreur.
Nous ne nous entendrons jamais à ce sujet, reprit en riant la gouvernante, moi qui suis devenu fanatique de la grande armée. Rien que ça, mais le fait est qu'une guerre de corsaires, ça doit être encore plus terrible qu'une autre.
Oh oui, dit Onésime, une guerre sans merci ni pitié.
Eh mais, reprit la tante, c'est ce qui en fait le charme pour nous autres lecteurs. Quels hommes ça doit être, ces corsaires, et ce capitaine L'Endurci dont on parle tant, doit-il être redoutable à voir? Je me le figure avec une grande barbe rousse, des yeux flamboyants, une mine féroce et une ceinture de pistolet et de poignard, avec un uniforme noir brodé de têtes de mort en argent.
De grâce, tais-toi, ma bonne amie, dit la jeune fille, il y a de quoi faire des rêves affreux.
« Voyons, continue, Onésime, » reprit la gouvernante. Mais s'apercevant que le jeune homme avait légèrement pâli et que quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, elle ajouta « Qu'as-tu donc, mon garçon? On dirait que tu souffres. »«
Moi, non, ma tante, » répondit Onésime, se reprochant de ne pouvoir assez vaincre l'atroce douleur que sa brûlure lui faisait éprouver et dont le sentiment se trahissait malgré lui sur ses traits.
« Je vais continuer la lecture, si mademoiselle le désire. »«
Certainement, monsieur Onésime. Mais il me semble que votre tante a raison. Vous avez l'air de souffrir. »«
Pas du tout, mademoiselle, je vous assure, » reprit Onésime en souriant.
« Je suis seulement attristé, comme vous, en songeant aux maux horribles que la guerre entraîne avec elle. Hélas, faudra-t-il voir les hommes toujours s'entretuer au lieu de s'aimer et de s'entraider ?»«
Onésime, » reprit la gouvernante, « tu parles en véritable poule mouillée, toi qui aurais fait un si joli garde d'honneur, si tu avais vu à quatre pattes devant toi. »«
Peux-tu avoir une pareille pensée ?» dit la jeune fille à l'implacable tante. « Ne devons-nous pas, au contraire, nous estimer bien heureux de penser que ceux que nous aimons ne sont pas exposés à de grands périls ? Mais continuez, je vous prie, monsieur Onésime. »
Le jeune homme poursuivit sa lecture. L'entrée du capitaine L'Endurci dans le port de Dieppe fut un véritable triomphe. Toute la population était rassemblée sur les jetées. Ce furent des vivats, des cris d'enthousiasme sans fin. Lorsque l'on vit s'avancer lentement, tenant ses prises sous son canon, le brick corsaire, noir de poudre, son gréement haché par la mitraille, ses voiles trouées par les boulets et son lambeau de pavillon tricolore cloué à sa poupe. Le trois-mâts anglais était presque complètement désemparé. Le nombre et la gravité de ces avaries témoignaient de la vigueur de l'attaque et de la défense. De nouveaux cris de « Vive la France !»« Vive le capitaine L'Endurci !» firent explosion lorsque l'intrépide corsaire mit le pied sur l'embarcadère. Mais le triomphe du « capitaine » devint une véritable ovation lorsque l'on apprit que le trois-mâts si intrépidement enlevé par lui convoyait plusieurs transports de blé. Dans la pénurie de grains où se trouvait la France, une telle capture est un bienfait public. Et l'on sait à cette heure que le capitaine L'Endurci, ayant eu connaissance de la prochaine arrivée de ce convoi de grains, avait passé quelques jours en croisière pour l'attendre, négligeant des prises plus riches et moins dangereuses à attaquer. Somme toute, l'ovation du capitaine L'Endurci a été complète. Elle datera glorieusement dans les fastes de la ville de Dieppe.
« C'est superbe, c'est magnifique !» s'écria la gouvernante enthousiasmée.
« Ah, je donnerais 10 ans de ma vie !» pour être la mère, la femme ou la sœur d'un héros pareil, comme je serais glorieuse.
« Oh bien moi, ma bonne amie, » reprit la jeune fille, « je t'avoue en toute humilité, ou plutôt en toute félicité,
que je m'estime mille fois plus heureuse d'être la fille d'un bon commerçant en rouennerie que d'avoir pour père quelques héros sanguinaires comme ce corsaire ou d'autres gens de guerre. Mon Dieu, mon enfant, êtes-vous peu ambitieuse? Comment? Cela ne vous rendrait pas fière de pouvoir vous dire « Ce terrible homme, c'est mon père » ou bien « C'est mon mari, c'est mon frère ». S'il était absent, je tremblerais pour lui en songeant au péril qu'il court, et quand il serait présent, je croirais toujours voir du sang à ses mains, ajoutant la jeune fille en frissonnant et devenant toute pâle. « Mon enfant, vous n'êtes en vérité pas raisonnable de vous impressionner ainsi, » dit la gouvernante avec un accent d'affectueux reproche. « Vous vous faites mal. »« Mademoiselle, voulez-vous que je cesse cette lecture ?» dit le jeune homme. « Non, non, monsieur Onésime, pardon de cette faiblesse dont j'ai honte. » Puis, tâchant de sourire, elle dit à la gouvernante, « C'est ta faute aussi, à toi. Ce sont tes idées ambitieuses qui ont amené cet entretien. Mais va, tu reviendras des pensées plus sages. Et au lieu de rêver au héros de la grande armée, un beau jour, tu te décideras à épouser ce pauvre soupirant qui t'aime depuis tant d'années. « Moi ?» s'écria la gouvernante. « Épouser le commis de monsieur, un civil, un Pékin, comme disent les militaires, un bonhomme que je soupçonne d'être aussi poltron que maladroit, et qui, à chaque voyage de monsieur, revient avec quelque chose de moins ou de plus. Une fois, c'est une roue de moulin qui lui broie 2000 pieds, ce qui le rend boiteux. Une autre fois, il laisse deux de ses doigts entre les dents d'une machine à laquelle il avait, dit-il, voulu toucher. Enfin, un autre jour, et je ne serais pas étonné qu'il ait été gris ce jour-là, n'est-il pas tombé, nous a-t-il conté, si malheureusement sur un tesson de bouteille qu'il est resté au pauvre cher homme une telle balafre à travers le visage que l'on dirait d'un coup de sabre. « Eh bien, ma tante, dit Onésime en souriant, que du moins cette apparence d'une blessure martiale vous attendrisse en faveur de ce digne homme. « Monsieur Onésime a raison, reprit la jeune fille en riant aussi. En voyant à ton bras ce balafré, on le prendra pour un de ces héros de la grande armée que tu aimes tant, et tu pourras être fière tout à ton aise. Un instant, ça ne fait pas mon compte, dit gaiement la gouvernante. J'aime les héros, mais non les invalides. Maintenant, Onésime, continue. Je suis très curieuse d'apprendre comment ce terrible corsaire a pu être enlevé par des Anglais sur le territoire de France. Voici, mademoiselle, la suite de ce récit, dit Onésime. Le capitaine l'endurci, après être resté 3 jours à Dieppe pour y consigner ses prises, quitta le port et prit la route de Paris, dans une chaise de poste, laissant malheureusement à Dieppe, pour régler quelques affaires, son maître canonnier, un de ses plus anciens compagnons d'armes, grièvement blessé d'ailleurs dans le dernier combat. Il est probable qu'avec le secours de ce brave marin, le capitaine l'endurci n'eût pas été victime de l'indigne guet-apens où il est tombé. C'est entre le second et le troisième relais de poste, en venant de Dieppe à Paris, qu'un enlèvement d'une audace incroyable a été tenté et exécuté par 2 émissaires anglais qui avaient sans doute épié le moment de s'emparer du capitaine l'endurci. Il paraît que ces émissaires, sous un prétexte adroit, ont abusé de la crédulité du postillon qui conduisait la chaise de poste, ont obtenu de lui qu'il le devancerait sur la route à un endroit convenu, et que, profitant de l'obscurité de la nuit, ainsi que d'un temps d'arrêt causé par une montée rapide, l'un d'eux prendrait la place du postillon et conduirait ainsi la voiture pendant quelque temps. Ce projet réussit. Le postillon crut ne céder que momentanément la conduite de son attelage, mais à peine l'émissaire anglais fut-il en selle, qu'il lança les chevaux avec une effrayante rapidité, tandis que le postillon était jeté à demi-mort sur la route par l'autre anglais cramponné au ressort de la chaise de poste. Le capitaine l'endurci, d'abord surpris de l'allure impétueuse des chevaux dans une dangereuse descente, crut que le postillon avait négligé d'enrayer la voiture, et qu'il était emporté par ses chevaux. Mais bientôt cette allure imprudente se modéra, et la voiture continua de rouler avec une extrême rapidité. La nuit étant devenue très obscure, le capitaine corsaire ne put donc remarquer qu'au lieu de suivre la grande route, la voiture prenait une autre direction. N'ayant aucun soupçon, ignorant complètement la substitution du postillon, le capitaine voyagea ainsi pendant 1 heure et demie environ et finit par s'endormir. La voiture s'arrêta. Il s'éveilla en sursaut et se crut arrivé au relais, et voyant à travers la nuit noire 2 ou 3 lanternes aux approches de la chaise de poste, il en descendait sans la moindre défiance, lorsque soudain plusieurs hommes se précipitèrent sur lui, et avant qu'il eût pu faire un mouvement, il était garrotté, bâillonné et transporté sur la plage du petit port de Hosay, situé sur la côte, à 7 lieues de Dieppe, et connu pour être un repère d'audacieux contrebandiers. Le capitaine, incapable de bouger et d'articuler une parole, fut embarqué à bord d'un chasse-marée et jeté à fond de cale, toujours garrotté. Quelques moments après, le léger bâtiment, profitant du flot et d'un vent propice, quittait Rosay et se dirigeait à toute voile vers les côtes d'Angleterre. « Pauvre capitaine, dit la gouvernante, comment va-t-il sortir de cette terrible position ? Mais Dieu merci, il en est sorti puisque le journal raconte son évasion. » Que je meure si je me doute de quelle façon il aura pu échapper à ces maudits Anglais. Quelle infâme trahison !» Oui, mais peut-être était-ce des représailles, dit la jeune fille en soupirant. Hélas, entre ces hommes de bataille et de sang, les haines doivent être implacables. Décidément, le capitaine endurci ne fait pas votre conquête, ma chère enfant, dit la gouvernante. La jeune fille secoua mélancoliquement la tête pendant qu'Onésime poursuivait sa lecture. Le capitaine l'endurci n'est pas de ces hommes que le périt là-bas. Nous sommes heureux de pouvoir à ce sujet donner l'extrait d'une lettre du capitaine adressée à l'un de ses amis, son armateur, lettre dans laquelle il donne les plus grands détails sur son évasion. Voici cet extrait. Une fois enfermé à fond de cale, écrit le capitaine l'endurci, incapable de faire un mouvement, je me sentis possédé d'une colère féroce en songeant à la lâche perfidie dont j'étais victime. J'aurais étouffé de fureur si l'on m'eût laissé mon baillon. On m'avait jeté à fond de cale sur quelques morceaux de vieille voile. Mes jambes étaient liées et serrées l'une contre l'autre au moyen d'une longue corde goudronnée, grosse comme le pouce. Mes mains attachées derrière mon dos, je ne pouvais ainsi me servir de mes dents pour ronger mes liens. J'essayais, en me courbant, d'atteindre la corde qui me serrait les jambes. Impossible. Au peu de roulis du chasse-marée, je jugeais qu'il était appuyé par une forte brise et que nous devions marcher vite et droit vers la côte d'Angleterre. Je savais le sort qui m'attendait. Quelques mots des lâches qui s'étaient emparés de moi m'avaient éclairé. Au lieu de me tuer, tout d'un coup, ils préféraient me torturer longtemps dans les pontons. L'un de ces Anglais avait même parlé de m'exposer plusieurs jours aux huées et aux insultes de la populace. À cette pensée, j'ai cru que j'allais devenir fou. Je retombais, en rugissant de fureur, sur les vieilles voiles qui me servaient de couche. Ce premier accès passé, la colère me donna, comme toujours, de nouvelles forces. Mon sang bouillonnait, affluait à mon cerveau, et faisait naître 1000 projets plus audacieux les uns que les autres. Je sentais ma puissance morale et physique décuplée par cette incroyable effervescence de toutes mes forces vitales. Je me décidai pour l'un de ces projets que le paroxysme de ma fureur avait fait éclore. Dans toute autre disposition d'esprit, ce projet m'eût paru impraticable. Et il l'aurait été, je crois, pour un homme qui ne se fût pas trouvé comme moi surexcité par la fermentation de la colère, redoutable et puissante divinité, comme dit le poète indien. Depuis peu d'instants, la jeune fille, de plus en plus attentive à ce récit, semblait en proie à une préoccupation pénible. Plusieurs fois, elle avait tressailli comme si elle avait voulu fuir une pensée douloureuse. Soudain, interrompant malgré elle la lecture du journal, elle s'écria « Ah, cet homme me fait frémir. Pourquoi donc cela ?» lui demanda la gouvernante. « À moi, cet intrépide corsaire me paraît brave comme un lion. Oui, mais quel caractère de fer !» reprit la jeune fille de plus en plus émue. « Quelle violence !» Et l'on dirait que cet homme ose glorifier, diviniser la colère. Puis elle ajouta, en tressaillant de nouveau, « Ah, la violence, la colère, c'est horrible !» Et pâle et frissonnant de tout son corps, elle répéta « Oh, la colère, c'est terrible !» La gouvernante, sans attacher grande importance à l'émotion de la jeune fille, lui répondit « Dame, écoutez donc, mon enfant, vous dites que la colère, c'est horrible. Ma foi, c'est selon. Car enfin, si dans cette violence, ce brave corsaire devait trouver la force et le moyen d'échapper à ces traîtres d'Anglais, il avait joliment raison, et moi à sa place. Mais je... Mon Dieu !» s'écria-t-elle en voyant la jeune fille devenir d'une pâleur mortelle et fermer les yeux comme si elle eût été sur le point de défaillir. « Mais mon Dieu, qu'avez-vous donc, mon enfant ?» À ces mots de sa tante, et au bruit qu'elle fit en se levant pour se rapprocher vivement de sa compagne, Onésime fit un mouvement pour aller aussi au secours de la jeune fille, mais il se rassit tristement, de crainte de s'exposer à quelque maladresse, et désolée de ne pouvoir pas même lire sur les traits de celle pour qui il tremblait, si l'agitation dont elle souffrait se calmait ou s'aggravait, car il régna un silence de quelques secondes que la gouvernante interrompit bientôt en s'écriant avec une anxiété croissante. « Mon enfant, vous ne me répondez pas. Vos lèvres tremblent. Vous pleurez. Mon Dieu, qu'avez-vous ?» Ces paroles n'arrivèrent pas aux oreilles de la pauvre enfant. Leur regard fixe, ses grands yeux encore agrandis par la terreur et par l'égarement, elle indiquait, du geste, une apparition née sans doute du désordre de ses pensées et murmurait d'une voix haletante, saccadée. « Cet homme, oh cet homme, vêtu de noir, ce sinistre souvenir de mon enfance, le voilà encore, le voilà. « Calmez-vous, ne pensez plus à cela au nom du ciel !» s'écria la gouvernante. « Ne savez-vous pas combien ces pensées vous sont funestes ?»« Oh !» reprit la jeune fille, dans un complet égarement. « Cet homme, il était aussi effrayant dans son comportement et sa colère lorsque... Oh, il y a bien des années de cela, oui, j'étais toute petite. Il me semble le voir encore, avec son large chapeau, sa veste noire et sa jupe blanche, costume étrange, lugubre, noir et blanc, comme la livrée des morts. C'était le soir. Mon père était absent de la maison. Alors cet homme, mon Dieu, cet homme, il est entré chez nous. Je ne sais par où, je ne l'avais jamais vu. Il menaçait ma mère qui me tenait entre ses bras. Alors elle lui a dit en pleurant, je me le rappelle bien. Grâce au moins pour mon enfant. Mais lui s'est écrié en menaçant toujours ma mère. Tu ne sais donc pas que je suis capable de tout dans ma colère. Et puis il s'est élancé. Alors ma mère, oh, ma mère, morte, et moi ? » La jeune fille ne put en dire davantage. Elle tomba dans une crise spasmodique que lui causait presque toujours ce douloureux et terrible souvenir de ses premières années. Funeste événement, fatale commotion, doivent dater l'impressionnabilité nerveuse et maladive, les involontaires et vagues effrois auxquels l'infortunée était sujette depuis son enfance. Cette crise se calma bientôt, grâce aux soins experts de la gouvernante, qui n'était hélas que trop habituée à les lui donner. Revenue à elle, la jeune fille dont le caractère offrait un singulier mélange de faiblesse et de fermeté, eut regret et honte du peu d'empire qu'elle avait conservé sur elle-même pendant le récit de l'évasion du corsaire, récit qui, chose inexplicable pour elle, lui inspirait à la fois de l'horreur et une sorte de curiosité sinistre. Aussi, malgré les timides supplications d'Onésime, elle voulut absolument que celui-ci continuât la lecture si tristement interrompue. La gouvernante, voyant cette insistance et craignant que, dans ce moment surtout, une contrariété, même légère, ne réagît d'une manière dangereuse sur l'organisation fiévreuse de la jeune fille, dit à Onésime de continuer le récit de l'évasion du capitaine l'endurci.